بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شفاعنا الإسلام نغمسي الله عز وجل qui nous donne la possibilité donc de reprendre ces majlis, ces assemblées après le mois béni de Ramadan. Alhamdulillah, nous avons profité du mois béni par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Allah Rabbul Izzah nous a donné la possibilité de multiplier les bonnes actions, de multiplier les bonnes œuvres. Maintenant, un mois est presque révolu après le mois de Ramadan. Je crois qu'on va chercher la lune de l'Qa'ada demain soir. Et dès ce soir, à Makkah, ils sont en train de chercher la lune de Dhul-Qa'ada. Je ne sais pas s'ils ont trouvé. Yani, après un mois de Ramadan, un mois de ferveur, un mois de Qiyamul Layl, de Tahajjud, un mois de jeûne, un mois de sabre, de patience, un mois d'observation stricte des ordres d'Allah et d'éloignement total des interdits, nous devons être capables de faire un bilan. Après 30 jours, où est-ce que je me situe par rapport à ma situation, mes a'mal durant le mois de Ramadan ? C'est un bilan, hein, c'est pas des aveux, hein, c'est chacun doit faire une réflexion, une propre réflexion, parce que c'est ça le musulman intelligent. Le musulman intelligent, c'est pas celui qui continue à faire des bonnes œuvres de façon, on va dire, presque mécanique. Hein, il fait ses salats, il continue, il vient, il rentre, il sort. C'est bien, c'est les œuvres, les actions basiques qu'on accomplit. Mais le croyant éclairé, c'est celui qui va comparer son après-Ramadan à son mois de Ramadan. Parce que la période de l'année où on atteint, on pourrait dire, le paroxysme, le summum en termes de bonnes œuvres, de bonté et d'obéissance, c'est durant ce mois. C'est la période où Allah nous donne le plus tawfir de faire de bonnes actions et de rester éloigné du haram. On va dire que le Ramadan reste un repère pour le croyant. Et c'est à partir de ses actions de ce mois qu'il doit être capable de s'identifier à chaque fois. C'est-à-dire, après un mois, après deux mois, après trois mois, je dois être capable d'analyser quel était mon comportement durant ce mois et comment est mon comportement aujourd'hui, 15 Shawwal, 13 Dhul-Qa'ada ou 18 Dhul-Hijja ou 12 Muharram. Dans toutes les situations. Par exemple, la question hein, qu'on se pose, c'est pas tout le monde, hein, même moi, chacun doit faire une propre réflexion. S'il m'arrive de me réveiller à 4h du matin, d'accord ? Je me réveille à 4h du matin, je regarde quelle heure elle est. Je sais que le Fajr, il est à 6h, d'accord ? Mais il est 4h du matin. Et qu'est-ce que je prends comme décision ? Imran ? Tahajjud, Inch'Allah. Quelle autre décision possible, Abdurrahman ? Continue à dormir. On repique, on replonge un petit coup, parce qu'on veut voir si la suite du rêve, d'accord ? Donc, deux possibilités, A ou B. Est-ce que la solution B est haram ? C'est un péché ? Non. Quelqu'un, il voit que ce n'est pas l'heure de Fajr, il redort, bien sûr, avec l'intention, ben, il va se réveiller à 5h30 ou 6h15 pour venir à la masjid. Mais celui qui choisit la solution A, subhanallah, ça veut dire que son mode de vie, je veux dire maintenant, se rapproche de son mode de vie durant le mois de Ramadan. Parce que durant le mois béni, quand il était 4h du matin, c'était l'heure où on se réveillait. Peut-être plutôt pour certains. On se réveille, on fait la prière de la nuit, Qiyamul Layl, on passe du temps de les doigts. Et ensuite, on va prendre le suhoor pour le jeûne, et ainsi de suite. Deuxième cas de figure. Donc là, ça nous donne vraiment une possibilité de comparer ma vie actuelle au Ramadan. Si j'ai diminué, c'est que je n'ai pas eu tawfir de istiqama, de rester ferme dans les bonnes œuvres. Qu'Allah nous pardonne tous. Deuxième analyse. Demain, c'est mercredi, d'accord. Après demain, c'est jeudi. Jeudi, qu'est-ce qu'il est bon de faire ? Jeûner ? Jeûner, vous avez dit jeûner ? Bien. Quels sont les deux jours où il est bon de jeûner ? Lundi et jeudi. Donc après demain, c'est jeudi. Deux cas de figure. Je me décide de jeûner parce que je veux faire partie des gens qui vont entrer dans le Jannah par la porte de... Comment dit cette porte, non ? Hein ? Pas été attentif. Je veux faire partie de ces gens qui vont entrer dans le Jannah par la porte de Rayyan. C'est une porte réservée aux jeûneurs. Ça, c'est Mukhtas. Spécifique aux jeûneurs. Donc, si je veux être dans le Jannah par la porte du Rayyan, c'est quand même sharaf, c'est quand même un grand honneur. Je ne louperai pour rien au monde les jeûnes du lundi et du jeudi. Lorsque c'est le 13, 14, 15, qu'est-ce que je fais ? Somme, je jeûne également. Ce sont les trois jours où il est sunna de jeûner. Donc si le mois de Shawwal passé, le mois de Dhul-Qa'ada qui arrive, le lundi, le jeudi, je fais le jeûne, je réponds présent parmi les sa'imin, ainsi que le 13, 14, 15, c'est que j'ai eu tawfiq de la part d'Allah Azza wa Jal de continuer les bonnes œuvres. Ça, c'est istiqama. Ce qui est une preuve également que mes actions étaient acceptées durant le mois béni. Parce que la plus grande preuve de qaboul, la plus grande preuve d'acceptation des bonnes actions, c'est al-istiqama. Le moteur qui chauffe pendant 30 jours, qui fait le toit de l'île, il accélère, accélère. Et après, il met la voiture au garage, il ne va pas loin. Celui qui, mashallah, durant le ramadan, il cartonne, qiyamul layl, comment on appelle ça, khatmul quran, tahajjud, plein de choses. Mais après le mois de ramadan, khalas, quran fermé, tahajjud, position off, et plus de jeûne. Jusqu'au premier ramadan 1436, là, il recommence à jeûner. Là, il redécouvre, c'est quoi, c'est C'est pas top, ça. C'est quelqu'un qui n'a pas eu tawfiq de rester ferme dans les bonnes heures, istiqama, comme on appelle. Donc ça, c'est une deuxième analyse concernant le jeûne, après avoir analysé mon comportement la nuit concernant Qiyamul Layl. Troisième cas de figure. J'analyse mon après Salatul Fajr. Mon après Salatul Fajr. Quand Salatul Fajr est terminé, deux possibilités. Quand le imam dit « Salamu alaykum wa rahmatullah »« Salamu alaykum wa rahmatullah » Il n'a pas terminé le « Ha » du « Salamu alaykum wa rahmatullah » Je suis déjà pelle à pain en train d'acheter ma baguette ou cardinal, je ne sais pas où ça. Alors que durant le mois béni, après la salat, je restais. Je faisais mes adhkar. Et je prenais mon Coran et je lisais jusqu'au shuruq, jusqu'au lever du soleil. Et je faisais 2 unités ou 4 unités de prière. C'était mon quotidien du mois de Ramadan, mois de ferveur. C'était la période où je cherchais la moindre possibilité pour combler le temps dans les ibadah, dans le ta'a. C'est vrai que c'était plus facile, parce que Shaitan n'était pas là. C'est vrai que c'était plus facile, parce qu'en jeûnant, on faisait un tazkiya ajib. Je corrigeais mon nafs, et de cette façon, mon nafs, il est maîtrisé. Et donc, j'ai la possibilité de le dominer, et de faire des bonnes actions, faire les bons choix. Donc, j'analyse mon après-fajj, là, demain, et je compare avec le Ramadan, et je vois, est-ce que j'ai eu tawfiq, Allah m'a accepté pour faire preuve de istiqama, ou alors je n'ai pas été accepté pour faire preuve d'istiqama. Si c'est le cas, si mes après-fajj ressemblent à mes après-fajj de Ramadan, ça veut dire que mes actions de Ramadan ont été acceptées et Allah m'a, pour montrer que, subhanallah, dalil, pour que Allah il nous fait comprendre qu'on a été accepté, il nous permet de rester dans le droit chemin. C'est le plus beau cadeau, ça, qu'Allah donne à un croyant, de lui donner tawfiq, de l'inviter, de l'accepter, de le faire venir dans le cercle des grands adorateurs d'Allah, ceux qui font les actes d'adoration avec fermeté, istiqama. Voici donc, mes chers frères, 3 ou 4 exemples concernant l'analyse que nous devons faire entre notre mois et le mois de Dhul-Qa'ada qui va commencer, je crois, demain ou après-demain. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais perdre de vue le mois de Ramadan. Il ne faut pas dire que le Ramadan est révolu, khalas, on se prépare pour la prochaine fois. Non, ce mois doit rester un repère pendant 11 mois encore. Jusqu'au mois de Sha'ban 1434-35. Et là, après, on envisage le nouveau Ramadan. Yani, ça doit rester un repère. On a parlé des bonnes œuvres, maintenant, on parle des péchés. J'analyse mon samedi soir de Dhul-Qa'da et mon samedi soir de Ramadan. Si durant le mois béni, j'avais pris la résolution, ce qui est tout à fait cohérent, que je ne fais pas de bêtises. On ne va pas aller en boîte, on ne va pas aller faire n'importe quoi, et ainsi de suite. Et que là, ma style, je me dis que non, ben, il faut s'amuser, il faut se défouler un petit peu. C'est que là aussi, je n'ai pas eu tawfiq de la part d'Allah pour rester ferme, de le droit chemin, pour rester éloigné des wasawis, des pièges, des tentations du diable, de shaitan. Quand je marche dans la rue, Maréchal Leclerc, la rue des bons enfants, la rue des beaux diables, quel que soit le nom de la rue, et que je me rends compte que je ne peux pas m'empêcher de regarder les femmes, tout comme un radar ne peut pas s'empêcher de flasher celui qui dépasse la limite. Flash, flash, flash. Il y a 10 voitures, il flash les 10. Il y a 10 poulies, il passe, on flash les 10. Alors que durant le mois béni, mashallah, les yeux étaient regardés, les doigts de pied. Il y avait une relation entre mes yeux et mes doigts de pied. Alhamdulillah, le regard était baissé. Je me rends compte que durant le mois béni, j'assurais en termes d'éloignement du haram, mais je n'ai pas eu tawfiq de rester éloigné du haram. Ce qui veut dire que j'ai baissé. J'ai baissé de grade. Je ne vais pas dire non plus qu'il faut être parfait. Mais il faut essayer de progresser. Parce que ça ne s'appelle pas être parfait encore. Même si je garde mes bonnes habitudes du Ramadan, on est loin des sahabas. On est loin des tabi'in, on est loin des grands saints de l'islam. Mais à notre niveau, si on peut garder fermeté, istiqama, dans mes prières de la nuit, istiqama dans les jeûnes du lundi, jeudi, toutes les semaines, et 13, 14, 15 tous les mois, si je peux rester ferme dans un minimum de dhikrullah après la salat de Fajr, par exemple, c'est le moment où on est le plus disponible, un peu de lecture de Coran, prière de shuruq, c'est déjà pas mal pour un croyant qui vit au 21e siècle dans un pays qui n'est pas un pays musulman. Et Allah connaît la situation de chacun, et certainement, Allah est tellement généreux et clément, et Allah est hakim et adl, sage et juste, que certainement il va voir que l'effort que nous faisons ici, à La Réunion ou en France, ça vaut peut-être, Wallahu alam, je ne juge pas, mais c'est peut-être mieux que ceux qui font beaucoup plus que nous et qui habitent dans les villes saintes ou dans un pays musulman. Parce que quand vous habitez à Mecca, à Medina ou dans n'importe quel pays où la majorité des gens sont musulmans, les bonnes actions, c'est beaucoup plus accessible. Et l'éloignement des péchés, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Mais quand on est dans un pays où on vous invite, où la population vous invite, les mœurs nous invitent vers le haram, et l'accomplissement des bonnes actions est perçu comme étant un comportement inadapté, et que malgré ça on fait preuve de fermeté, ça c'est une preuve de iman. Je ne compare pas à la période mécoise, mais c'est un petit peu comme ça. Dans l'Ahd Makki, dans la période Makki, c'est-à-dire la période où les musulmans étaient à Mecca. Combien de temps ils étaient à Mecca avant la Hijra de Rahman? Mashallah, 13 ans. On n'a que des champions là, mashallah. Si on faisait un quiz, on aurait déjà gagné plein de choses. 13 ans à Mecca. Pourquoi est-ce que les muhajirines, ils ont plus de valeur, ils sont plus, on va dire, côté, on pourrait dire, que les Ansar? C'est parce qu'ils ont vécu les périodes les plus difficiles, les plus compliquées. Une période où s'éloigner des péchés, c'était compliqué parce qu'il y avait des idoles partout, les Arabes buvaient l'alcool en quantité, il y avait les fitnas, et l'accomplissement des bonnes actions était difficile. Quasiment impossible de faire une salat en congrégation publique ou de montrer les signes de iman. Donc celui qui restait ferme dans son dîn, c'était quelqu'un qui était sincère, mukhlis. Donc de la même façon, analyser quelqu'un qui va à Umrah ou qui va au Hajj, est-ce que c'est quelque chose d'extraordinaire? Et je ne diminue en rien les actions qu'on accomplit, mais est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel que la personne fait son fajr en jamaat le haram Mecca? On va dire, mon frère, vous êtes venu là pour ça. Tu n'es pas venu pour le buffet de Hilton, Sheraton ou Zamzam Tower. Tu es venu pour les 5 salats au moins de le haram. On va dire que c'est adi, c'est normal. Maintenant, quelqu'un qui le fait dans un contexte qui n'est pas un contexte Makki, Madani, d'un pays musulman où on est libre également, on n'a pas de travail, on est en vacances, on pourrait dire, c'est un autre niveau, alhamdulillah. Et celui qui reste ferme dans les actions qu'on a dit, Saum, Qiyamul Layl, Dhikrullah, Tilawatul Quran, certainement, ce sont là des preuves que la personne est mukhlis, est sincère et cherche le contentement d'Allah Azza wa Jal. Et Allah, et comme on l'a dit encore une fois, même si on fait de notre mieux, ça ne sera pas comparable un poisson à ce que les sahaba faisaient. Tout comme lorsqu'on parlait de Umar ibn Abdil Aziz, qui était connu, qui était réputé pour être un calife très, très juste, les gens disaient que même si Umar ibn Abdul Aziz était un homme exceptionnel, quel est l'exemple qui est donné? Est-ce que quelqu'un connaît l'exemple? Al-Mathal, la comparaison entre Umar ibn Abdul Aziz et... Ah, subhanallah, là du coup c'est moi qui coince. Le sahaba, Allah, comment il s'appelle le sahaba? Oui, Muawiyah. Quelle est la comparaison? Quelqu'un a déjà entendu la citation? Elle dit que la poussière qu'il y a sous les chaussures de Muawiyah, alors que Muawiyah est le sahaba qui est le plus contesté. D'accord? Surtout du côté des autres communautés, ceux qui ne sont pas sunnites. Mais étant un sahaba, il mérite tout notre respect. Donc, dit la poussière qu'il y a sous les chaussures de Muawiyah radiallahu anhu, vaut plus que Umar ibn Abdul Aziz et toute sa vie de bonnes œuvres. Ça, c'est pour nous donner une idée de la valeur des sahaba. Maintenant, quand on a dit, même si on s'applique du matin au soir, nos actions ne voudraient pas 0,1% des actions des sahaba. Mais n'oubliez jamais qu'Allah est Rahman Rahim, clément et miséricordieux. Et que même si on est faible, même si on n'a pas la force de foi, de spiritualité des sahaba, Allah sait dans quel contexte nous vivons, dans quel endroit nous vivons, comment la pratique de la religion est difficile. Comment est-ce qu'il est difficile à notre époque d'être des parents? C'est le métier le plus difficile, ça, être parent. Quand un enfant a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est sous contrôle. Jusqu'à ce qu'il en CE1, CE2, CM1, CM2. Quand il rentre en 6e, premier pas au collège, wallahi, on tremble. J'ai angoissé plus que mon fils la veille de la rentrée. Qu'est-ce qu'il va voir? Après ces briefings, hein, comme Malartik, il trappe, il met au assise, la table, il explique à eux. Attention, Ya Abunei, ce que tu vas voir, là-bas, c'est des choses que tu n'as pas vues encore en CM1, CM2. Tu vas voir des jeunes qui ont 13 ans, 14 ans, qui fument, des jeunes garçons, des jeunes filles qui s'embrassent, qui font telle chose. Sache que ces gens-là, ce n'est pas ton modèle. Ton modèle, c'est le croyant, le mu'min. C'est un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sache que ces gens-là n'ont aucun espoir du Jannah, n'ont aucune crainte du Jahannam. Et que le Prophète me dit que c'est le Jannah. Le Jannah, en fait, c'est ce dunya. Donc tout ce qu'ils font, tout ce que tu vois, c'est permis pour eux, mais là-haut, ils n'auront rien. Alors que nous, nous espérons tout de la part d'Allah Azza wa Jal. Si on ne briefe pas, il n'y a pas un mot français pour briefer. Ça, c'est de l'anglais, ça, non? Briefing, debriefing. Si on n'explique pas à nos enfants les valeurs du croyant et les valeurs de celui qui n'a pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dans son cœur, mes chers parents, nos enfants sont en danger. Et une explication cohérente de la différence entre mu'min et kafir, entre les attentes du mu'min, les craintes du mu'min, les attentes du kafir et les craintes du kafir, si on n'explique pas ça de façon claire, les enfants ne comprendront pas. Comprendront pas pourquoi moi j'ai pas le droit à ça, pourquoi moi on m'a interdit de faire telle chose et telle chose. Et un discours violent, un discours qui va peut-être traumatiser un enfant, ça marche pas. Ça peut marcher quelque temps, tant que l'enfant estime qu'il n'est pas encore en droit d'affirmer sa personnalité, c'est-à-dire l'adolescence, il va écouter. Mais quand il va dépasser le cap des 14-15, où il s'affirme naturellement, et ça, ça fait partie de sifat de l'être humain, qu'à un certain moment, il doit être capable de prendre son envol, d'avoir ses propres idées. Quand il atteint l'adolescence, vous pouvez crier, gueuler, parler avec un microphone ou un mégaphone, il ne vous écoutera plus. Alors que le langage du cœur, le langage de la foi, expliquer le sifat du mu'min, ça c'est quelque chose qui, inshallah, pourront toucher le cœur des enfants. Donc dans un contexte comme ça, être parent, être mu'min, c'est vraiment quelque chose de très compliqué, très complexe. Il faut être vigilant toute l'année, chaque jour, 24 heures sur 24. Il ne faut pas baisser la garde une fois. Petite anecdote. Avant de venir à Salat al-Isha, j'entends mon petit garçon, il a 5 ans, il a au moins une section, il est en train de chanter quelque chose. Et un truc que j'ai déjà entendu. Vous voulez que je vous chante? Je ne sais pas chanter, vous savez ça. Ni Nazam, ce n'est pas mon truc. Et il disait quoi? On va chanter, on va s'amuser, on va faire la fête, c'est la vie. J'ai réfléchi, dit c'est quoi ça? C'est pas, on n'apprend pas ça à l'école. Khaled s'appelle, non? Ou Nabil? Non, Nabil, ça qui fait gâteau Maurice, pardon. Khaled, c'est un chanteur. J'avais entendu ça une fois. C'est la vie, tout, hein, c'est bref. Tout de suite, je l'ai pris. Ma patte a pas dit, hein? J'ai pas grondé. J'ai dit juste sous Alba, c'est question. Est-ce que tu as entendu ça? Il m'a dit, ben, ça c'est telle personne qui a chanté. Yani, il a entendu une fois. Marra wahida bas. Il a entendu, il se met à répéter. Maintenant, comment on réagit? Soit on dit, oula, par contre, ça c'est haram de te mettre de plomb chaud dans tes oreilles, le jour de Qiyama et tout. Oh, traumatisme. L'enfant aura peur. On n'effraie pas les gens, on dit. Ou alors on dit, maman, il bêta. Comment il dit? Bêta. C'est tout ça, non? Bêta, ben, il vient bêta après. Il vient stupide. Laisse aller encore, petit maman, quand va grandir, il va comprendre. Quand va grandir, va comprendre. En attendant, ces valeurs-là vont être ancrées dans son cœur, vont s'installer, vont se cristalliser. Il va grandir avec ça. Donc, comment on procède? J'ai expliqué. Dit, le Coran, tu peux lire. Les poème en arabe, ça va ? Je dis, bon là, ça n'engage que moi. Les comptines de l'école, c'est OK, parce qu'on n'a pas trop le choix. Elle dit, mais tout ce qui est chanson des adultes, ça, c'est pas bien ça. Le musulman, il n'a pas le droit. Allah n'est pas content. Du coup, il a compris. Et puis, il change de cap. Et puis, restez vigilants. Il ne faut rien laisser passer. Rien, de rien, de rien. Ça ne veut pas dire qu'on est rigoriste. Non. Au contraire, votre enfant vous remerciera de le Jannah, Inch'Allah. C'est ce qu'on appelle tarbiya. Faire en sorte qu'il n'y a rien de négatif qui va pénétrer son cœur. Parce que quand l'enfant il est à l'école, il est à l'extérieur, il n'est plus sous contrôle. Il vit dans un monde où tout est axé autour du dunya, autour des malazins, des plaisirs de ce dunya, et autour de l'illicite, ce qui est haram. Parce que le haram, c'est exactement ce que notre société prône. La société prône la liberté, l'émancipation sexuelle. La société prône l'accès au bien par l'intermédiaire de l'intérêt, du riba, des moyens haram. C'est tout ce qu'on voit autour de nous. L'émancipation, etc. Sans qu'il y ait jamais de limite. Si ce n'est les limites de la loi, de la République. C'est-à-dire notre enfant, donc, quand il est lâché dans ce monde, il va ingurgiter tout ça. Quand il est petit, c'est à petite dose. Quand il sera grand, ce sera à dose massive. Il sera gavé de ça. Maintenant, quand l'enfant nous revient, on doit être capable d'avoir une oreille attentive et de distinguer, et de lui permettre de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Et ça, c'est un principe très important. Donner les bases à l'enfant pour qu'il puisse de lui-même distinguer ce qui est bon et de ce qui est pas bon. Et ça marche beaucoup mieux qu'une paire de claques, qu'une punition ou autre chose. Fais en sorte qu'il devienne lui-même le juge. Tu dis, regarde ça. Ça, c'est bon, c'est pas bon, ça. Est-ce que ça, c'est un comportement de musulman ou de non-musulman ? Par exemple, si vous voyez un jeune qui marche, vous connaissez, avec les pantalons qui descendent, on voit le caleçon et ainsi de suite, et tu dis, mais regarde ça, regarde pas, rigole pas. Regarde, est-ce qu'un musulman peut s'habiller comme ça ou non ? Plutôt que de dire, ça, c'est haram, lui, il va aller dans le jahannam. Il ne faut pas non plus choquer les enfants avec des mots forts. Il doit être capable lui-même de reconnaître que ça, ce n'est pas le comportement de mu'min. Que dès le jeune âge, il commence à comprendre la différence entre le halal et le haram. Quand le prophète Ali salat wa salam s'adresse à cet enfant qui était sur sa monture, les conseils qu'il prodiguait à cet enfant, c'était imaniyat, des choses en rapport avec le iman. Sache qu'Allah te voit, sache que si Allah te vient en aide, personne ne pourra te faire du mal. Si le monde entier se réunit pour te faire du tort, personne ne te fera du tort, si Allah te protège. Former le yaqin, former la conviction de l'enfant. Et ça, c'est encore plus important que de l'apprendre Alif Ba'atatha, Balara, Amara, Ilare, Rizali. Beaucoup plus important. Que dès le jeune âge, on forme son iman. Dès qu'elle commence à comprendre le langage, il faut commencer à lui parler d'Allah Azza wa Jal. Donc, je ne sais pas pourquoi on atterrit sur le tarbiya islamien, alors que le sujet est beaucoup plus dramatique que ça, normalement, le sujet du Ashrat al-Sa'a. Mais mes chers frères, c'était un retour, un flashback. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie le Ramadan. Ce serait dramatique, si on avait expliqué dans un bayan, je crois, il y a 2 ans, qu'on passe, je ne sais pas qu'on avait dit ça, qu'on passe du Ramadan au bœuf directement. Ça serait typiquement prawala, ça. Typiquement Arabes la Réunion. Le Ramadan est fini, tac, direct, fika le bœuf. Combien de jeunes et des filles, elles disent, moi, t'as plein des cartes tous les samedis, ça va mon bœuf. Il y en a qui vont voir le bœuf plus que leurs parents. Nasallallahu alayhi wa sallam. Ils vont voir le bœuf tous les samedis, tous les dimanches. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, non. Mais ne pas en faire une religion non plus. Donc, l'erreur, ce serait que le Ramadan est terminé, je tourne la page. On ne tourne jamais la page de Ramadan. Ya akhi, tu t'es démené 30 jours pour faire tahajjud. Tu n'as pas raté un tahajjud. Tu n'as pas raté une nuit où tu faisais dua. Tu n'as pas raté un ishraq, un jour de jeûne, bien sûr. Une salah. Tout ça, tu plies comme ça aussi rapidement. Ça, c'est l'action, le moment le plus fort de ta vie, ça, de toutes les années de ta vie. Ça doit rester un flambeau pendant 11 mois qui t'éclaire. Quand tu t'éloignes, retourne-toi, reprends un peu de lumière. Trouve tes repères. J'étais comme ça, moi, durant ce mois. Je dois rester comme ça. Et les doigts que nous faisons maintenant doivent toujours être rattachés au mois béni. Ya Allah, comme tu m'as donné tawfir de faire tahajjud durant ce mois, oh Allah, donne-moi tawfir de continuer à faire tahajjud. Si on a décroché, on recommence doucement, doucement. Et vous savez, la meilleure solution pour reprendre le qiyam ul-layl, c'est quoi ? Ben, c'est de jeûner le lundi, le jeudi. Quand vous allez jeûner, vous allez vous réveiller pour le subh al-sadiq, pour le suhur, pardon, avant le subh al-sadiq. Donc, raka'atayn, bas. On ne va pas dire faire comme 27e, on va passer la nuit au 25e. 2 raka'at. Et quelques doigts, 10 secondes de doigts. Levez les mains, au moment où Allah est en train de demander hal min mustaghfirin fa aghfir la. Y a-t-il quelqu'un qui demande tauba, istighfar, que je lui accorde mon pardon? Être parmi ces gens qui sont en train de lever leurs mains à ce moment précis dans tous les pays du monde. Chers frères, ça c'est important. Faut revenir. Faut se raccrocher. Celui qui est resté ferme, alhamdulillah, nourun ala nour. Si on s'est un petit peu éloigné, on a baissé de vigilance, il faut essayer de retourner un petit peu en arrière, de se raccrocher, de reprendre un peu de lumière qu'on a laissée durant ce mois, et ce mois-là doit rester le modèle pour nous. Qu'Allah nous accepte tous, inshallah. C'était une introduction nécessaire. J'ai des remords, ça ne veut pas dire que c'est fini, nour. Hein. J'ai des remords parce que durant ce mois, on n'a pas pu vraiment faire de programme, et du coup, on est le dernier jour de Shawwal, ou l'avant-dernier jour de Shawwal. Alors j'espère que chaque personne de l'Assemblée a pu jeûner ces 6 jours de Shawwal, inshallah. Qui c'est qui a pu faire ces 6 Shawwal? Mashallah. Par tawadou, Hudhaifa ne lève pas le doigt. Et beaucoup parmi vous, je sais, alhamdulillah. Celui qui a pu faire les 6 Shawwal, Allahu Akbar, tawfiq, salli raka'atain, faites 2 raka'at, remercie Allah. Faites 2 raka'at, remercie Allah. C'est un petit peu vache de ma part de dire ça quand Shawwal est terminé. C'est comme si que je vous parle de l'enjeu du match à la 89e minute, qu'il fallait marquer 2 buts parce que l'autre avait marqué 2 buts à l'extérieur et ainsi de suite. C'est un peu vache. Mais bon, on n'a pas pu faire le rappel. Mais celui qui a pu faire ces 6 Shawwal, vous savez qu'est-ce qu'il a eu, Imran? D'avoir jeûné, on va dire jeûné, toute l'année. C'est comme si que depuis le lendemain de Eid jusqu'au 29e ou 30e Sha'ban d'ensuite, tous les jours tu faisais Saum Karim. Ajib ça, oui ou non? Ça c'est une preuve de la générosité d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah veut donner, qu'Allah veut rétribuer, veut récompenser l'un, n'utilisez pas de calculatrice. Vous allez abîmer votre matériel. N'essayez même pas de compter, vous allez avoir mal à la tête. Quand Allah veut donner, là, il donne, mais tellement qu'il donne, humainement, ce n'est pas estimable. Et comme on avait expliqué dans un Jumu'ah ici, prenez l'exemple de la nuit du destin. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. La nuit du destin vaut mieux que combien de mois? 1000 mois. Vous avez vu ça? Une nuit, Allah vous donne 1000 mois. Ça fait combien d'années encore 1000 mois? 80 et quelques années, non? Plus de 80 ans. 83 ans. C'est une vie, ça, oui ou non? Et encore, c'est plus qu'une vie. Parce que si quelqu'un est baligh, on va dire à 13, 14, 15 ans, rajoutez 15 à 83, ça vous ramène à 93, ça, presque 100. Et centenaire, c'est très rare quand même. Yani, c'est, on va dire, c'est une vie d'adoration. Uniquement pour une nuit. Ça, c'est une preuve. Et ça les mufassirin, les ulama disent, gardez toujours en esprit, si vous voulez avoir une idée de la générosité d'Allah Azza wa Jal, pensez à la nuit du destin. Comme on a yaqin, conviction, que la nuit que je passe en adoration, la nuit du destin, elle vaut plus de 1000 mois, oui, c'est ça, autant j'ai yaqin, je dois avoir conviction sur chaque texte qui stipule, qui spécifie des récompenses pour des actions. Entre autres, des 6 Shawwal. Pour 6 jours, on a conviction yaqin qu'Allah va nous accorder une année entière. Pour celui qui a fait 30, ensuite 6, ça fait 36 fois 10, sachant que les actions sont rétribuées. Il y a un schéma, je crois, là-bas. Les actions sont rétribuées. Non, ce n'était pas ici, je ne sais pas si masjid, j'avais mis ça. Que chaque action est rétribuée au minimum 10 fois plus. Plus, pardon. Al-hassanatu bi'ashri amthaliha. La bonne action est rétribuée 10 fois plus. Donc 30 fois 10, ça fait 300. 6 fois 10, ça fait 60. 300 et 60, ça fait 360. C'est l'année lunaire. Et ça, c'est une preuve de la karam, de la générosité d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, celui, et les savants disent que celui qui a fait ces 6 Shawwal, c'est là aussi une preuve de istiqama, de qaboul, qu'Allah l'a accepté, lui a donné tawfiq de continuer, et ainsi de suite. Donc mes chers frères, on doit garder, et je le répète une troisième fois, encore garder à l'esprit ce mois béni, et le prendre comme modèle pour les 11 prochains mois de l'année. Il n'y a aucune raison que je diminue en ibada. Pourquoi? Ça, c'est l'adoration d'Allah, ça. C'est pas une tradition de faire tahajjud durant le mois de Ramadan. Combien de personnes ne font pas tahajjud durant Ramadan, vous savez? Il y a des gens qui se lèvent, qui mangent et qui redorment, qui vont peut-être. Il y en a qui ne viennent pas en namaz ici. Quand vous faites tahajjud durant le mois de Ramadan, c'est qu'Allah vous a choisi. C'est pas un automatisme, ça. Mais pourquoi j'arrête? Ça, c'est adoration d'Allah pour obtenir son contentement, pour obtenir le Jannah. pour s'éloigner du Jahannam. Pourquoi je m'arrête? Il a réalisé Zalik. Je passe tous les exemples. Continuez, Inch'Allah. Faites niya et demandez dans vos doigts. Accompagnez la bonne intention du doigt. Dans chaque chose, il faut avoir niya saliha, bonne intention et doigt. Et ensuite, l'effort va venir. Et quand vous faites le premier pas d'effort, Allah vous accepte pour le reste. Comme le stipule le hadith, celui qui fait un pas vers Allah, Allah fait deux pas vers lui. Vous vous approchez d'Allah d'un empan, Allah se rapproche de vous d'une coudée. Il a réalisé Zalik, les autres exemples. Pour qu'on comprenne. Donc, on commence par bonne intention. J'ai envie de faire telle chose. Vous faites du'a. Ou Allah, j'aimerais faire ça. Donnez-moi tawfiq de le faire. Vous êtes sincère, Allah va accepter ce du'a. Et troisièmement, commencez le premier pas, le premier effort. Et quand Allah voit, et Allah connaît tout, que vous avez démarré l'effort, Allah va vous donner la possibilité de faire le deuxième pas. Et le troisième, et vous serez, Inch'Allah, dans le droit chemin. Si vous me permettez, on peut parler juste 5 minutes. On introduit le chapitre qui vient, qui n'est pas long, parce qu'on on peut dire qu'on a clôturé les grands signes de Qiyama. Il nous reste à voir l'après Jésus, l'après Isa alayhi salam. Les derniers points qu'on avait vus, c'était lorsque Isa alayhi salam était élevé. Là on revient à l'histoire des Nasara. Quand Isa alayhi salam est décédé, après qu'il soit revenu sur la terre, qu'il ait combattu, qu'il ait pris le khilafat de l'imam Mahdi, qu'il ait combattu et tué l'antéchrist Dajjal, et qu'il ait imploré Allah de l'aide pour les croyants face à l'invasion des Ya'juj wa Ma'juj, et que leurs cadavres même disparaissent du dunya par ses doigts, et que l'humanité connaît un moment de baraka, de bonheur comme jamais l'homme n'a connu dans aucune civilisation. Après ces années-là, Isa alayhi salam meurt. Et dans les textes, il est dit, je n'ai pas le hadith ni la référence sous les yeux, mais dans un texte, il est dit que, à peu près dans ce sens, que jamais l'humanité ne connaîtra un moment de bonheur comme à l'époque de Isa. Et après l'époque de Isa, l'humanité ne connaîtra plus jamais de moment de bonheur. Dans un texte, il me semble même qu'il est dit qu'il n'y a plus d'intérêt à vivre après le décès de Jésus de Isa alayhi salam. Parce que c'était le point culminant de la Nusra d'Allah Azza wa Jal. Après cela, les choses vont décliner. Jusqu'à ce que l'islam disparaisse de ce dunya. Mais quand on a dit, je crois qu'on avait parlé de ça avant le mois de Ramadan une fois. Quand on dit l'islam disparaît, il y a une différence entre dire que l'islam disparaît et dire que l'islam est vaincu. Parce que l'islam n'est jamais vaincu. Tant que les mu'mines restent accrochés au dîn d'Allah, c'est le haqq, sur le droit chemin, avec sincérité, en suivant les ordres d'Allah, en suivant la sunna de notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le mu'min reste izza dans l'honneur et il obtient toujours la nusra d'Allah. Inna lanansuru rusulana. Après, walladhina amanu. C'est qui walladhina amanu? C'est nous, ça? Bien sûr, il ne faut pas avoir honte, oui, c'est nous. وَالَّذِينَ آمَنُوا سَبُوا بَكْرُ عُمَرُ عُثْمَانَ عَلِي les sahaba, les tabi'in, c'est moi, à l'île de la Réunion en 2014, c'est n'importe quel croyant de n'importe quelle région du monde, à n'importe quelle époque, tant qu'il y a la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dans leur cœur. C'est ça, الَّذِينَ آمَنُوا. Donc, إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا l'aide d'Allah pour ses prophètes. وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا et ceux qui ont la foi dans ce dunya. Et bien sûr, وَيَوْمَ يَقُومُ après ça c'est dans l'au-delà. Mais dans ce dunya, le mu'min, ça fait partie des, on va dire, des cadeaux qu'Allah accorde aux croyants, qu'il a toujours l'aide d'Allah Azza wa Jal, tant qu'il reste dans le droit chemin. Donc le dîn ne va pas être vaincu. Ce n'est pas qu'il y a une armée qui va écraser. Si armée il y a, qui devait écraser le dîn, qui devait écraser pendant l'islam, ça aurait été l'armée de Dajjal. Jamais la Ummah, jamais ceux qui ont la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dans leur cœur n'auront croisé autant d'ennemis que durant l'époque de l'antéchrist. Même les époques où il y avait des guerres, d'accord, dans l'empire, quels que soient les empires omeyyades ou ailleurs, même avec les tatars et tout, ils n'ont jamais rencontré autant d'ennemis que ceux qui vont rencontrer Dajjal et son armée à la fin des temps. Donc s'il devait y avoir une défaite, ça aurait été à cette époque, mais non. malgré ces conditions difficiles, ils ont toujours eu la protection d'Allah Azza wa Jalla. Donc, ce dîn-là ne s'éteint pas, ça. Ce dîn-là, il ne disparaît pas par faiblesse. Quand Allah veut que ce dîn disparaît, Allah le reprend. Et Allah reprend tout ce qui fait le izzah, le nœud de ce dîn. On verra la prochaine fois. Allah Azza wa Jalla reprend la Kaaba. Allah Rabbul Izzah reprend Al-Hajj Al-Aswad, la pierre noire. Allah Azza wa Jalla reprend le Coran. Le Coran est repris par Allah Azza wa Jalla. Allah Rabbul Izzah reprend l'âme de chaque croyant avec une douceur incroyable, par une brise qui passe sous les aisselles, et la personne, chaque Ahlul Iman quitte ce monde avec cette douceur. C'est pas l'ennemi qui le tue, non. C'est Allah Rabbul Izzah qui ordonne à l'ange, Al-Maut, l'ange de la mort, de reprendre l'âme de tous les croyants de ce dunya en même temps. Parce que c'est le moment de détruire ce monde. Ce monde a été créé par Allah pour un but. Tester la race humaine. Est-ce qu'il supporte le amana? Est-ce qu'il reste le droit chemin? Ils obéissent à Allah ou ils obéissent à leur nafs et ils succombent au pied de shaitan. Maintenant, l'étape finale, c'est de les juger pour leur passage de ce dunya. C'est des schémas très simples. Allah va les juger. Mais avant le jugement, ben, il faut enlever tout ça. Parce que les deux mondes ne peuvent pas cohabiter. Il faut que le monde de ce dunya disparaisse pour que le monde du akhira commence l'autre étape. Donc c'est de cette façon que le dîn va disparaître à la fin des temps, et non pas par faiblesse, et non pas à cause de la force des ennemis. Regardez, on donnera juste un exemple. Tant que les croyants restaient fermes de le droit chemin, obéissés aux ordres d'Allah, au Prophète, ils n'ont jamais connu d'humiliation, de défaite. Qu'est-ce qui s'est passé à Badr, à Uhud, pardon. Uhud, ça ne s'appelle pas une victoire. Ça ne s'appelle pas non plus une défaite. Ça veut dire que c'est mitigé. Il y a eu majeure partie de la campagne où tout allait bien, où les croyants avaient le dessus. Mais il y a eu une erreur, un endroit précis, et là il y a eu beaucoup de pertes parmi les croyants. Et les mécréants étaient satisfaits de la deuxième partie de la bataille, les croyants étaient satisfaits de la majeure partie de la bataille. Ça ne s'appelle pas une défaite, ça ne s'appelle pas une victoire, ça s'appelle une leçon. Parce que les archers avaient désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on désobéit aux ordres d'Allah, aux ordres du prophète alayhi salatu wa sallam, c'est là qu'il y a des difficultés. Regardez Hunayn. Yawma Hunayn id a'jabatkum kathratukum. Kathra, ça veut dire quoi? Que veut dire kathir? Beaucoup, on a appris ça, non? Kathir, c'est beaucoup. Al-kathra, c'est la quantité. A'jaba, ça veut dire quoi? A'jaba. Ajib, que veut dire? Ça, c'est ajib. Quand on est impressionné, on dit ajib. Id a'jabatkum, lorsque yani, les croyants étaient fiers de leur grand nombre. Aïe. Ils ont fait un péché là? Non. C'est juste que le yaqin était parti un peu sur tous ces épées. Il y a beaucoup d'épées, il y a beaucoup de montures, il y a beaucoup de cavaliers, il y a beaucoup de combattants. Et du coup, la confiance en Allah est passée un petit peu en second plan. Ils ont une leçon de la part d'Allah Azza wa Jal. Alors que tant que le croyant reste dans le droit chemin, il reste sous la protection d'Allah Azza wa Jal. Ce qui veut dire que ce dîn ne disparaît pas à la fin des temps à cause des ennemis ou à cause de la faiblesse des croyants. Et les exemples qu'on a vus, le Coran, il ne sera jamais falsifié. C'est pas que le Coran disparaît parce qu'il est falsifié et qu'on ne trouve plus de traces. Abadan. Et c'est ça que, subhanallah, on verra ça, inshallah, dans deux semaines, quand on va voir que le Coran est repris, c'est là qu'on réalise encore plus le verset Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidhun, qu'Allah a révélé donc le Coran et c'est lui qui le protège, tellement protégé que depuis Iqra, de la période Makki, ce qu'on appelle l'an zéro de la prophétie, jusqu'à ce que le Coran est repris, il n'y a pas un ayat, un harf, une voyelle, un accent qui est changé. Et quand Allah décide que, quand Allah décrète que cette umma maintenant ne mérite plus le Coran et qu'il faut détruire ce dunya, Allah reprend le Coran intact. Comme l'ange Jibril l'avait déposé, le Coran est repris sans qu'il n'y ait une égratignure, un changement. Ça c'est wa'adullah. Ça, c'est la promesse d'Allah Azza wa Jal. Alors que ce Coran a traversé les siècles, les civilisations. Il est passé au travers des siècles, des lumières. Le 19e siècle avec le spleen, tous les mouvements littéraires. Quantité de grands auteurs en France, en Russie, en tous les pays, ils auraient pu écrire quelque chose de similaire ou changer ou falsifier. Aucun écrivain, aucun philosophe, aucun ennemi, aucun tyran n'a été capable de porter atteinte à ce livre parce qu'il est protégé par Allah Azza wa Jal. Donc, cet exemple, il est frappant. Ce Coran reste honoré et quand la Oumma ne mérite plus, Allah le reprend. Ce dîn reste honoré jusqu'à ce qu'Allah décide de le reprendre pour détruire ce dunya. Et preuve de l'amour d'Allah pour les Ahlul Iman, que quand ce monde est détruit, aucun croyant ne souffre par la destruction de ce dunya, parce que la destruction de ce dunya, c'est quelque chose de terrible. Inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim. C'est quelque chose d'extraordinaire, traduction approximative, d'inimaginable. Donc on verra ça, Inch'Allah, la prochaine fois. De même qu'on parle de ilm, la connaissance religieuse, elle ne sera pas falsifiée, elle ne sera pas trahie. Non. C'est quand Allah veut reprendre le ilm, qu'est-ce qu'Allah fait? Comment? Non. La mort des savants. Inna Allah la yaqbidu l'ilma. Je n'ai plus le hadith en tête. Inna Allah la yaqbidu l'ilma. Et à la fin, c'est intiza'an, mais pas maut al-ulama, par le décès des savants. De cette façon, Allah reprend peu à peu le ilm, la connaissance religieuse de ce dunya, mais le ilm n'est pas perdu ni trahi, il est repris par Allah Azza wa Jal. Parce que ce sont des choses qu'Allah Azza wa Jal aime. Donc on verra ça, Inch'Allah, la prochaine fois, le programme, en deux ou trois séances, on va voir quelques hadiths de base concernant la disparition de l'islam à travers le Coran, qui est repris, la Kaaba, la pierre noire, et l'abandon même du Hajj à la fin des temps. On va voir également les trois grands séismes. Ça fait partie des signes. Les derniers signes, c'est avant la destruction de Dunia, trois grands tremblements de terre. On va voir quelle est la différence entre les séismes de la fin des temps et les séismes qui se passent un petit peu partout dans le monde à différentes époques qu'Allah nous protège. On va voir également cette fameuse Dukhan, cette fameuse fumée, hein, qui va surgir de ce dunya. On va voir la bête Adab, la bête qui va surgir et qui va parler, qui va s'adresser aux gens. On va voir également cette brise douce qui va reprendre l'âme des croyants. Et on va voir le déclin de la race humaine. Les gens qui retourneront vers le Jahiliya. Les gens vont retourner dans la période de l'ignorance où il y aura le shirk, où les gens vont faire des choses inimaginables, où plus personne n'a la pensée d'Allah dans son cœur. On va voir également la destruction de la Kaaba, ça on va vraiment l'expliquer, Inch'Allah, jusqu'à la destruction définitive de ce dunya. Je pense qu'en trois ou quatre séances, on pourra, Inch'Allah, compléter ces derniers grands signes de Qiyamah, et puis on verra qu'est-ce qu'on va faire ensemble, Inch'Allah. Que Allah Ta'ala donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles. À moi en premier, à nous tous, de mettre en pratique et qu'Allah Rabbul Izzah nous donne la possibilité, donc Inch'Allah, de reprendre un petit peu les lumières qui animent nos cœurs durant ce mois béni concernant lecture du Coran, d'Ikrullah et l'accomplissement de Qiyamul Layl, le Tahajjud, ainsi que les jeunes Nafil. Qu'Allah nous accepte, Inch'Allah, et nous garde sur le droit chemin, nous permet également de rester éloignés de tout ce qui est haram. Ma tawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.